Bonjour, vous écoutez l'épisode 19 du podcast Les Petits Plus Zen, un podcast créé par Séverine Fass. J'ai été enseignante pendant 20 ans en maternelle en REP+, et maintenant je me dédie à l'aide à la parentalité pour mieux expliciter toutes les connaissances, les compétences et les développements des jeunes enfants et pour acquérir une vie de famille plus zen, plus apaisée, en confiance et en belle synergie chez vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'oser prendre la parole, d'oser parler, de la maîtrise du langage oral pour préparer ensuite la maîtrise du langage écrit. C'est une notion, pour le coup, qu'on apprend beaucoup en formation d'enseignant. Donc à l'IUFM, on avait beaucoup de modules sur la préparation à l'apprentissage de la langue, à l'apprentissage de la langue orale et l'apprentissage de la langue écrite. Et on est assez exigeant avec les compétences de fin de cycle. À la fin de la maternelle, l'enfant devrait être capable de prendre la parole, d'expliquer un texte, de décrire, d'utiliser des pronoms complexes, des subordonnés, des compléments de temps, d'accorder à toute la langue et la complexité du français. Donc ça, ce sont des présupposés qu'à la fin de la maternelle, l'enfant sera capable, au niveau de son développement intellectuel et émotionnel, de faire tout ça pour qu'on puisse cocher ensuite le livret d'évaluation dans ce sens. Et en travaillant en REP+, je me suis vite rendu compte qu'on présupposait beaucoup de choses sur un enfant de REP+, qui en fait n'était pas la norme. Ça veut dire que même en grande section, il arrivait d'avoir des enfants qui ne voulaient pas communiquer, qui ne voulaient pas parler avec nous, qui n'avaient pas envie de faire des énoncés, des constructions de phrases, d'ajouter des compléments, de faire des coordinations. Tout ça ne les intéressait pas. Et au niveau de l'évaluation, ça devenait très difficile pour nous de cocher ce qu'on nous demandait de cocher. Donc j'ai essayé d'explorer un peu cette dimension. Je me suis renseignée, j'ai lu plusieurs livres sur la langue. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus transversal que ça. C'est que l'intention de l'enfant était liée à sa compréhension de l'utilité du langage, en fait, de la fonction langagière. Est-ce qu'il avait compris à ce moment-là que le langage était une sorte de pouvoir, était une sorte de compétence qui pouvait le servir réellement, alors qu'il se mettait parfois la pression en se disant « on attend de moi des énoncés, on me demande de parler » et ça devenait finalement inconfortable pour lui de voir que la langue pouvait aussi lui servir. Donc je vais approfondir tout ça avec vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être aussi explicite que possible et aussi terre à terre et pratique. Hein. Si vous en avez écouté d'autres des épisodes, vous voyez que j'essaye vraiment de verbaliser au mieux et de ne pas partir dans un jargon pédagogique qui n'a pas forcément l'utilité pour des élèves très jeunes. Donc en grande section, j'ai fait ce constat-là et ensuite je suis repartie dans des classes de petits et de petits moyens. Et après, c'est dans le dispositif des moins de 3 ans que j'ai vraiment approfondi la notion que l'intention que l'enfant a autour de sa connaissance du langage était vraiment essentielle. Quand j'ai vu qu'on ne va pas présupposer que l'enfant parle d'office, déjà, ça m'a permis de déconstruire toute ma pratique sur la notion de langage et les fonctions du langage. L'enfant n'a pas forcément l'intention de s'exprimer. Et si vous vous mettez à sa place, pouvez-vous vous demander pourquoi il s'exprimerait ? À quoi sert finalement le langage ? Pourquoi un enfant de 2 ans ou 3 ans prendrait la parole ? Et c'est une question fondamentale en fait. À quel besoin ça répond de prendre la parole dans une classe, de prendre la parole à la maison ? Si les gestes suffisent, puisqu'on a aussi une communication non verbale, pourquoi est-ce que l'enfant prendrait la peine, l'effort, la difficulté, le défi de mettre en mots ses idées et ses pensées ? Donc je vais vous inviter à réfléchir à un premier type de profil d'enfant. C'est peut-être votre cas à la maison ou en classe. On a un profil d'enfant qui est très vite compris à la maison. Ça veut dire que les parents le connaissent très très bien, ils sont très attentifs à ses besoins, ils y répondent rapidement. Et finalement, l'enfant est deviné, est compris, sans avoir besoin d'expliquer, de poser les mots, de former les phrases. Comme si la communication était court-circuitée, en fait, par une très grande présence du parent, ou une très grande présence de l'encadrant, hein, puisque c'est valable aussi en crèche. Et l'enfant se dit, bon, bah, c'est bon, je suis compris, je n'ai pas besoin de me forcer à exprimer ma pensée, à verbaliser mes envies et mes besoins, puisqu'on me comprend presque intuitivement. Et vous voyez en ça que quand on est débutant ou quand on est jeune parent, on a tendance en fait à anticiper le besoin de l'enfant, à anticiper parce que nous, on a le schéma de pensée qui est très rapide, qui est très construit, qui est efficace presque. Alors que l'enfant, le temps déjà qu'il comprenne ce dont il a besoin, ça peut demander un certain cheminement, mais qu'en plus il comprenne qu'il a besoin de le traduire en mots, de trouver les bons mots, de construire sa phrase pour se faire comprendre de façon intelligible par un autre adulte, c'est un cheminement complètement différent. Et ça s'apprend très très tôt en fait. Donc je vais vous inviter à partir de ce profil-là à vraiment comprendre que quand on répond tout de suite aux besoins de l'enfant, presque trop vite, l'enfant n'a pas eu le temps de le formaliser, de l'exprimer et donc de construire sa langue orale, de construire sa langue de communication. Donc ça, c'est un des premiers profils qu'on avait en dispositif des moins de 3 ans. Les enfants arrivaient en classe en pensant qu'on allait tout de suite fournir, donner, approvisionner ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils avaient en tête, sans avoir besoin de le verbaliser. Donc, ça va poser plusieurs questionnements, puisque l'impatience d'avoir ce qu'on demande et l'impatience qu'on soit compris très rapidement n'est pas le cas en collectivité, n'est rarement le cas même dans la société. C'est-à-dire que si on n'exprime pas son besoin, si on ne demande pas quelque chose, on ne nous l'offre que très rarement sur un plateau. Donc là, on est lié au principe de réalité, au principe vraiment que pour avoir quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour obtenir quelque chose, je vais faire ma part du dialogue, faire ma part de communication. Donc ça, c'est un premier point concernant les profils d'élèves qu'on avait en classe. Et le deuxième profil d'élève, qui est un peu plus difficile à cerner au début, c'est un enfant qui se refuse complètement à communiquer, mais à la fois qui n'exige rien en fait, qui est là dans l'attente, dans la passivité, et chaque année on en avait un ou deux, que ce soit en petit, en moyen ou en grande section, qui attend, non pas volontairement, non pas activement, mais qui attend tout court. Et si nous ne faisions pas l'effort d'aller lui demander ce dont il avait besoin ou ce dont il avait envie ou s'il voulait participer à l'activité, de lui-même, il n'avait pas l'intention de communiquer avec nous, de prendre sa place, de poser ses mots et de verbaliser son monde intérieur. Donc vous voyez que c'est un profil très différent du premier. Dans ces cas-là, cet enfant qui se mettait en fait volontairement de côté reflétait une certaine transparence, une certaine passivité. Il se noyait un peu dans le groupe. Alors, ce n'est pas des enfants qui sont dérangeants, ce n'est pas des enfants qui sont perturbateurs, mais moi, c'est des enfants qui me faisaient ressentir que je devais aller plus loin dans ma création d'outils pour rassembler ces profils d'enfants-là qui ne voulaient pas, qui ne souhaitaient pas s'insérer dans un dialogue, dans une conversation, et même en relation duel. Ça veut dire que même quand j'étais seule avec ces profils d'élèves-là, l'enfant se refusait de communiquer, de répondre. Peut-être que j'avais un hochement de tête de temps en temps, ou alors j'avais un oui timide, mais parce qu'on lui avait appris à dire oui quand un adulte pose une question. Et vous voyez que ça veut dire que c'est déjà biaisé. La communication et le langage est déjà biaisé très très tôt pour ces enfants qui se disent « à quoi bon communiquer ?» Finalement, je ne sais même pas si ça va me servir à quelque chose, comme s'ils étaient déjà déçus de ne pas avoir été entendus, écoutés. Je vais vous renvoyer à l'épisode de l'attachement et du côté sécure, bien entendu. Ces enfants-là se sentent à la fois mis de côté. Alors, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est ce qu'ils se sont dit à l'intérieur? Est-ce que c'est une projection ou est-ce que c'est vraiment un ressenti? C'est difficile à évaluer. Mais cette perte d'estime, en fait, visuelle, m'a laissé penser ensuite que on ne leur demandait pas leur avis en fait. On ne leur demandait pas de s'exprimer. Et quand on ne demande pas à quelqu'un de produire ou de créer ou de répondre, ben, l'autre en face perd une certaine énergie, une certaine envie, une certaine... Oui, j'ai l'image de la libido dans le sens vivant. Il y a une énergie vive qui se perd. Et c'est des enfants qui étaient parfois éteints, tête baissée, et qui attendaient que la vie passe, que la vie coule. Donc moi, ça me tenait vraiment à cœur de comprendre un peu mieux ce mécanisme, d'explorer des pistes qui auraient pu aider ces enfants-là à rejoindre le groupe et à se servir du langage pour ouvrir un peu leur perspective, qui était déjà bien sombre alors qu'ils étaient en maternelle. Donc j'ai peut-être des collègues qui ont constaté ça aussi dans d'autres écoles, mais moi ça m'a vraiment sauté aux yeux en REP+, parce que je ne comprenais pas que ces enfants soient aussi fermés à la communication à 2, 3, 4 ou 5 ans. Donc une des premières pistes que j'ai explorées quand j'avais encore les grandes sections, c'est de mener un atelier de philosophie. Donc en 2014, j'ai installé des goûters philosophiques, c'était le tout début des APC, donc c'était les activités pédagogiques complémentaires. On faisait après la classe, en petits groupes de 7 ou 8, un atelier philosophie. Je ferai un épisode directement consacré à ça, mais je vous en donne quelques grandes lignes. Et ce qui m'a déjà rassurée, c'est qu'en fait l'enfant ne faisait pas ça vraiment consciemment, c'est juste qu'il avait désactivé la fonction « mon avis intéresse quelqu'un ». Ce qui est très triste quand on y réfléchit. L'enfant à qui je demandais individuellement « et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» quel que soit le thème, des fois on parlait de l'amitié, on parlait du bonheur, on parlait de l'argent, du travail, on avait des thèmes assez variés. Mais l'idée même que son avis puisse être entendu, écouté par quelqu'un d'autre, ne lui était même plus accessible. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus, de se dire qu'un enfant pourrait vite conclure que son avis n'intéresse personne, que son avis n'a pas de valeur. Et là, vous avez peut-être déjà la portée vraiment symbolique de cette notion-là. Si très jeune l'enfant se dit « mon avis ne compte pas », comment pourra-t-il ensuite trouver sa place dans la société, bien au-delà de l'école, pour se dire que son avis a de l'importance et qu'il peut l'exprimer? Parce que avoir un avis, c'est une chose, mais l'exprimer, vous voyez bien que c'est l'étape d'après. Donc cet atelier philosophique, de dire à chaque enfant « ton opinion compte pour moi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses ?» d'oser penser et d'oser dire sa pensée, ça a débloqué quelques situations, ça n'a pas été magique, mais j'ai vu une étincelle se faire dans les yeux de certains enfants qui se sont dit « ah mais en fait j'ai le droit de penser des choses, j'ai le droit de le dire » et du coup, je rappelais aussi qu'on n'a pas à être d'accord avec tout le monde. C'est juste l'expression de la pensée, l'expression de nos valeurs, de notre identité. Et en ça, on est à la fois sur la rayure indigo d'expression et à la fois sur la rayure jaune d'identité. Mais que c'est une pépite, c'est vraiment un potentiel pour chaque enfant de se dire « j'ai un avis, j'ai des idées et je peux les exprimer ». Donc ça, c'est vraiment une piste intéressante, quel que soit l'âge de l'enfant, de lui faire ressentir que son idée, son avis, son opinion compte pour quelqu'un d'autre. Que ce soit le parent, la figure d'attachement, le responsable de crèche, le responsable de tennis, comme vous voulez. L'expression de soi, se dire soi-même, c'est une manière d'exister, c'est une manière de s'affirmer individuellement. Ce n'est pas définitif, notre avis va évoluer, notre avis peut changer au fil des rencontres et des discussions et des argumentations. Mais vous voyez tout de suite que quand on demande à un enfant de fin de maternelle d'argumenter, de donner son avis, ça se construit bien en amont dans l'idée qu'on doit d'abord lui proposer de donner un avis, de faire une séance complète sur ton opinion, ta parole a un sens pour moi, a une valeur pour moi. Parce que la compétence va se travailler comme un muscle. Si on veut lui demander d'argumenter en fin de maternelle, il faut qu'il ait très tôt eu l'occasion de donner un mot, une phrase, un bout de langage, et qu'on lui ait accordé une place pour s'exprimer. Donc voilà deux, trois éléments déjà sur l'idée de créer une situation avec l'enfant où il puisse nous donner son ressenti, son opinion de façon verbale. Parce que les petits utilisent beaucoup les gestes, hein. Donc le non-verbal, on l'a souvent, mais c'est le verbal qui m'intéressait de creuser. Ensuite, par rapport à cette rayure d'expression, pour qu'elle se développe après en rayure d'autonomie, je vais immanquablement vous reparler de la notion d'attachement. Si l'adulte qui crée cette séance, si l'adulte qui crée cette activité périscolaire ou en crèche est une figure d'attachement, ça va l'aider, ça va le pousser à créer cet énoncé, à créer cette phrase, ce mot de partage et à offrir à l'autre ce message, cet intitulé, ce contenu qu'il n'aurait sinon pas envie de partager. Donc la notion de confiance, elle est essentielle aussi pour créer ces langages de tout petit. Si l'enfant n'a pas confiance, si l'enfant n'est pas attaché à la personne en face de lui, il ne créera pas d'énoncé, il ne se révélera pas au niveau de son identité et au niveau du sens qu'il a à apporter. On apprend du coup mieux avec des personnes qu'on connaît, auxquelles on est attaché. On apprend par les pairs, en observant. On apprend aussi en s'opposant aux idées des autres, mais ça vient plus tard dans la scolarité. Au début, le premier lien pour qu'un enfant puisse oser parler en classe, pour qu'un enfant puisse se révéler et argumenter, il faut d'abord lui offrir un système d'écoute et lui montrer que sa parole a une importance pour nous. Et ensuite, il pourra créer des choses de plus en plus riches. Donc, comment essayer d'aider l'enfant à oser prendre la parole, à oser parler. On va déjà verbaliser toute son existence, ses singularités, comment il est, son identité, ses valeurs. On va accorder de l'importance à son avis. Pour ça, comme bien souvent, on va lui poser des questions ouvertes. Ça veut dire lui laisser une certaine autonomie dans le choix, lui proposer des actions, que ce soit en classe ou à la maison. Par exemple, lui proposer de distribuer les crayons sur les tables, c'est une proposition. Il est libre de dire oui, il est libre de dire non. À la maison, lui proposer entre le pantalon rouge et le pantalon bleu, qu'est-ce qui l'intéresse? Et vous voyez que là, ça le pousse à se dire « Ah ben, on me demande mon avis, je suis important. » Donc j'y réfléchis et je donne une réponse. Et là, il n'y a pas un enjeu très compliqué, mais c'est déjà une perche qu'on tend au jeune enfant pour se dire « Ma parole va sortir de moi » et va être entendu par quelqu'un d'autre. C'est vraiment la base de la communication. Si on parle à quelqu'un, c'est parce qu'on espère être entendu, écouté, voire valorisé et validé, mais ça c'est une autre étape, mais au moins entendu et écouté. Donc ça veut dire aussi quand on lui propose ses questions ouvertes et ses choix, on a du temps pour l'écouter. On a un certain temps de réponse, parce que parfois, ils mettent un peu de temps à répondre. Et quand vous avez 25, 26 élèves qui, en grand groupe, veulent chacun donner leur réponse, ça demande un aménagement différent, peut-être une organisation en petits groupes, en sous-groupes, puisque sinon, chaque enfant ne se sent pas libre de prendre le rythme de débit de parole qui est nécessaire à son cheminement intérieur. Il y a des enfants qui ont le langage très tôt, il y a des enfants qui ont besoin de 3-4 mois avant d'arriver à sortir la phrase qu'ils ont en tête rapidement, surtout quand on est en grand groupe. Donc prendre du temps pour écouter sa réponse, prendre du temps pour le passage à l'action, si c'était un énoncé qui jouait ensuite avec un choix réel, physique, matériel. Je pense que la petite notion que vous avez entendue dans l'épisode sur l'attachement est aussi importante par le non-jugement. Cette notion d'attachement pour l'enfant, elle est quand même très importante parce qu'il va donner son avis, il va être écouté. Donc déjà, ça va l'apaiser sur l'idée qu'il existe vraiment pour quelqu'un, pour sa figure d'attachement ou pour la personne qui l'écoute. Et ensuite, il va attendre une réaction de notre part. Il va attendre une réaction à son énoncé. Et là, il va décoder, il va scanner en fait tout ce qu'on va envoyer comme information à son énoncé. Si on s'emballe complètement, ça peut aussi lui paraître étrange. Si on s'exclame « Ah oui, super, magique !» de façon théâtrale, ça peut paraître un peu disproportionné pour lui. Donc la difficulté dans le non-jugement de l'énoncé de l'enfant, c'est de voir à quel point il a eu un effort à fournir pour donner cet énoncé, et à la fois c'est une valorisation de son effort. Donc c'est difficile, hein, la nuance est très fine, de se dire « tu m'as donné une réponse, j'entends ta réponse, je trouve ça intéressant, j'aimerais bien que tu m'en dises plus » pour garder le fil de la conversation en fait, pour pas le couper par une réaction un peu trop vive, un peu trop enthousiaste, qui casserait l'énergie et l'effort de l'enfant. Donc ça, on le pratique beaucoup en classe, on essaye de s'adapter à chaque profil de parleur ou d'auditeur d'enfant, puisque chaque élève a un ratio différent. Il y a des enfants qui savent très bien écouter, il y a des enfants qui savent très bien parler, et puis sur une échelle de 0 à 100, ça peut aller vraiment de 10 à 90 sur l'un ou sur l'autre. Donc, l'intérêt de bien connaître ses élèves, l'intérêt de bien connaître ses enfants, c'est de s'adapter à l'effort qui vient d'être fait pour soit le relancer, soit l'approfondir, soit le valider si on sent que ça a été un effort très difficile pour l'enfant, de lui dire « merci d'avoir partagé ça avec nous, ça n'a pas été facile pour toi, si tu veux réintervenir, tu peux réintervenir après ». Mais pas le surstimuler, pas lui en demander encore plus, parce que là, il a déjà fait un gros effort. Et en ce sens-là, c'est la connaissance et l'observation de l'enfant, de l'élève, qui va nous permettre de savoir s'il est au maximum de sa capacité ou s'il peut encore donner plus. Donc là, on est vraiment dans un tequil de relations et de langage, puisque c'est lié à l'individualité de chaque besoin de l'enfant. Est-ce que cette notion d'expression lui a suffi? Est-ce qu'il se sent rassuré? Est-ce qu'il se sent écouté, identifié, autonome, libre? Et là, ça crée des petites paillettes dans toutes ces rayures de besoins, juste par le fait d'avoir réussi à créer un énoncé, être entendu, être validé, et de pouvoir, s'il le souhaite, continuer dans cette voie-là, ou se replier, se retrancher pour célébrer sa création. Donc on est dans l'émotionnel du langage bien plus que dans le technique du langage. Là, je ne vous parle pas d'articulation, je ne vous parle pas de connaissance du lexique, je vous parle de l'intention de vouloir partager sa vie intérieure avec une personne extérieure. Et ça, c'est un domaine qu'on n'apprend pas en formation. C'est un domaine qu'on apprend sur le tas, comme beaucoup d'autres, hein. Dans le dernier poste, je vous disais, la réunion de parents, on n'apprend pas à mener une relation avec les parents, avec les familles. Donc sur le tas, on apprend tout ça. Donc s'il y a des collègues qui veulent approfondir ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Moi, ça m'a paru vraiment très intéressant de créer ces situations de langage en individuel pour m'adapter au niveau de l'effort et de l'intention de communiquer de chaque enfant. Donc l'écoute, la présence dans un grand groupe, c'est déjà difficile. À nous de mettre en place les conditions idéales pour que chaque élève se sente libre de participer à l'oral. Un petit point très précis sur le langage, c'est que tant que l'enfant n'arrive pas à dire « je », on sait qu'il est entouré par tout un tas de représentations, de phrases qu'il entend autour de lui et qu'il réénonce comme si ça venait de lui. Et c'est difficile, notamment en atelier philosophique, de voir que certaines phrases sont déjà ancrées. Donc, c'est des idées qu'ils ont entendues par les amis, les cousins, la famille, en vacances, et qu'ils redonnent en atelier philosophie sans avoir passé ça à leur petite moulinette intérieure, sans avoir réfléchi à ce que ça avait comme conséquence dans leur expérience, dans leur vie. Certes, ils n'ont que 5 ou 6 ans, mais ils ont déjà une petite expérience de l'amitié, ils ont déjà une petite expérience du travail, parce qu'ils observent comment ça se passe le travail pour les parents, pour les grands-cousins. Et cette expérience, elle est riche quand elle est appropriée. quand l'enfant se l'approprie vraiment en se disant « Ah mais en fait, j'ai entendu ça, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. » Des phrases qu'ils ont entendues à la maison, qu'ils redonnent parce qu'ils les ont mémorisées, mais ils ne les ont pas approfondies, vécues. Donc c'est un langage de passeur, c'est un langage qui n'est pas incarné finalement, qui n'est pas ressenti. Donc ça fait déjà beaucoup de notions hein, pour des jeunes enfants, mais j'avais vraiment envie d'approfondir sur ces domaines d'intention de langage et de compréhension que le langage, on en parlait dans l'épisode sur verbaliser, c'est s'exprimer à travers des mots qui sont juste des bagages pour transmettre ce qu'on vit de l'intérieur, nos émotions, et tisser un lien avec la personne en face de nous. Donc pour sortir de ce je qui n'est pas tout à fait incarné, on a plusieurs pistes, hein, donc déjà vraiment appuyer sur la singularité de chaque élève, et puis défusionner un petit peu du groupe, de créer de l'altérité en fait dans le groupe en disant « mais toi tu penses différemment, il n'y a pas de souci, tu n'as pas les mêmes expériences, tu n'as pas le même vécu, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses, et puis on écoutera chacun avec la même valeur, la même égalité, chaque avis compte, chaque avis est important ». Et on n'est pas du tout dans la notion de vérité, mais on en reparlera quand je vous présenterai l'atelier philosophique. Donc lui donner des clés de compréhension, lui donner des clés bien sûr sur sa cheminée des émotions, hein, sur l'épisode 9 et 10. Plus on lui donne les codes et les clés, plus il peut s'en emparer et ensuite les révéler, les exprimer. S'il n'a pas les codes et les clés, il est dans un doute et dans une insécurité qui est difficile à vivre parfois. Donc, si c'est déjà difficile à vivre pour nous à l'intérieur, on n'arrive pas souvent à l'exprimer à l'extérieur. Et même nous, adultes, hein, quand on a une problématique intérieure d'insécurité, c'est bien difficile de faire la clarté là-dessus avant d'arriver à l'exprimer. Je vous invite aussi à lui donner beaucoup d'informations sur le choix de ses actions, sur les conséquences de ses actions, sur le court terme, sur le long terme. Toutes ces informations qui sont dans son fichier, qui sont dans sa mémoire, dans sa logique, hein, on en parlait dans l'épisode sur la verbalisation, ça va l'aider ensuite à créer des énoncés au plus près de ce qu'il veut exprimer. Quand on a les outils dans notre garage, c'est plus facile de se lancer dans un projet de bricolage. Parce que si on n'a pas les mots, si on n'a pas les structures, si on n'a pas la syntaxe, comment voulez-vous révéler votre message aux autres si vous n'avez pas les bons outils? Donc, donnons-leur le maximum d'outils, de lexique, de syntaxe, pour qu'ensuite, le jour où ils auront vraiment un message à nous porter, à nous donner, à nous confier, ils les aient en poche, ils les aient sur eux. On peut offrir aussi les repères et les limites pour définir le champ d'action de chaque enfant. J'ai noté cette idée par rapport au fait que exprimer, c'est bien quand ça vient de soi, mais on peut déjà les assurer que l'expression de soi peut avoir des conséquences sur l'autre. Donc vous le faites spontanément en général quand c'est votre enfant qui dit la dame, pourquoi elle est comme ça? Donc il commence à voir que parler peut atteindre les autres personnes, peut avoir des conséquences sur les autres personnes. Et donc, on peut exprimer beaucoup de choses, mais dans un certain cadre, dans une certaine limite qui ne blesserait pas, d'être attentif un peu aux effets de son énoncé. Donc, pas pour des enfants de 2 ans, hein, pour le coup, mais c'est déjà des petites notions que vous pouvez verbaliser avec eux sans qu'ils comprennent la portée philosophique de la notion. Vous pouvez les inviter à réfléchir à l'effet de certaines phrases sur d'autres enfants. Et si je renverse la situation, vous imaginez assez facilement que vous-même, vous avez reçu des phrases et on vous a donné des phrases qui sont restées ancrées longtemps en vous et qui n'ont pas forcément eu des effets positifs pour vous libérer la parole, pour vous aider à vous exprimer. Donc comme bien souvent, je vais vous inviter à réfléchir à vous-même, tout ce qu'on vous a dit sur le fait que vous parliez trop ou pas assez, ou que vous disiez des bêtises ou que vous disiez des choses intelligentes, parce que ces formulations, ces injonctions sont restées quelque part en nous et ont peut-être contribué à ce qu'on soit maintenant des grands parleurs ou pas, qu'on se lance en conférence ou pas, ou qu'on se retranche quand il y a trop de monde ou pas. Donc souvent, ça a été induit très très tôt. Et donc, ces jeunes enfants que j'avais en classe, je me disais comment est-ce possible que déjà à 4 ans, ils aient induit, ils aient compris et conclu que leurs paroles n'avaient pas de valeur. Après, je peux vous renvoyer aussi à la notion de se mettre à sa hauteur pour accueillir sa parole, hein, tout l'épisode 2 dont on a parlé, et de créer un peu le dialogue en fonction de sa vie à lui, de ces événements. Alors bien sûr, si ce sont des événements qui ont touché toute la famille, c'est l'occasion d'en parler avec lui, comment il se sent quand le grand-père vient de mourir, comment il se sent quand on a raté son train parce qu'on est arrivé trop tard. Donc de lui donner l'occasion de verbaliser, de ressentir à l'oral, d'exprimer en fait sa vision intérieure et sa vie intérieure. Donc il y a plein d'occasions en classe de le faire, il y a beaucoup d'occasions à la maison de le faire, mais une fois de plus, ça demande de la part de l'adulte, de la figure d'attachement, une intention de créer ce dialogue et un temps de présence qui n'est pas toujours facile à installer dans notre vie bien remplie. Donc ce tequil sur tous les sujets qu'on vit au quotidien, ce tequil sur les mots faciles, sur les mots difficiles, je vous invite à réfléchir aussi quand ils sont très jeunes, quand ils ont entre 2 et 5 ans, parce que toutes ces petites choses qu'ils nous racontent en sortant de l'école, toutes ces petites choses qui n'ont pas une grande importance dans la vie réelle d'adulte, sont en fait importantes pour eux. Quand votre petit garçon de 5 ans rentre en disant « mais j'ai perdu ma bille, oh là là, moi en plus c'était le cadeau de Laurent, mon super copain, je suis trop triste », si le parent ou si la baby-sitter lui dit « oh écoute, c'est qu'une bille, c'est pas grave », en fait, tous ces jugements, alors que lui, il était là pour vous proposer en fait son émotion sur un plateau, pour vous confier son état d'âme du moment, pour vraiment partager et créer une discussion de cœur à cœur, si à ce moment-là, on le remballe dans sa maison en lui disant « écoute, là j'ai des choses plus importantes à faire, c'est pas très important, c'est pas très grave, et tu t'en remettras, c'est qu'une bille », ce sont des choses qu'on a peut-être entendues, nous, hein, quand on était enfant, et ce sont des choses qui ne nous ont peut-être pas aidés à accorder de la valeur à notre parole et à accorder de la valeur à l'écoute de l'autre. Donc, si on prend le temps d'écouter les petites pépites, les petits cadeaux de nos enfants et de nos élèves jeunes, ça leur donne confiance en eux, ça renforce l'estime d'eux, de parler d'eux-mêmes, de communiquer d'eux-mêmes, de s'entraîner aussi à recevoir la parole de l'autre, qui ne sera pas toujours bienveillante, hein, c'est pas le pays des bisounours et des licornes, mais ça l'entraîne au moins à accueillir la diversité de réponses dans les dialogues, dans la vie, et de se faire confiance pour le jour où il aura vraiment un problème très grave à vous confier, un problème d'un ami qui est vraiment en dépression, d'un ami qui a eu un accident de scooter, ce jour-là, il osera faire l'effort de vous demander de l'aide, de vous partager son ressenti. Quand il sera en pleine rupture sentimentale, il viendra vers vous pour se confier s'il a senti que sa parole avait de l'importance pour vous, s'il a senti qu'il pouvait avoir une écoute bienveillante et que le dialogue serve pour se lier, pour se connecter à l'autre dans une rayure à la fois d'expression et à la fois de relation. Pour développer la compétence des enfants à oser parler, nous, adultes, enseignants, encadrants, parents, on est dans la compétence d'oser l'écouter et d'oser créer une situation de dialogue authentique, dans une certaine vulnérabilité. Ça veut dire qu'on n'est pas l'expert de la conversation, on n'est pas l'expert du dialogue, on est là pour entendre ce que l'enfant ose énoncer, ose créer et ose partager. Et du coup, vous voyez à quel point le faire très tôt, le faire dans le dispositif des moins de 3 ans, le faire à la maison quand vos enfants ont déjà 1, 2 ou 3 ans, c'est très riche pour l'avenir, c'est très riche pour le long terme, parce que l'enfant se sent compris, aimé, respecté et libre d'oser parler de son vécu, de ses ressentis, de ses émotions. Plus tard, il choisira les personnes à qui se confier, parce qu'au début, on ne peut pas tout dire à tout le monde, mais ça fait partie du chemin de l'apprentissage, et pour moi, ça fait partie du chemin du langage, d'apprécier vers quelle personne se tourner quand on a envie de partager quelque chose d'important pour nous à l'intérieur. Et de la même façon, si on crée ce message-là à l'oral, vous imaginez bien qu'ensuite, l'enfant pourra le refaire aussi quand il aura la maîtrise de l'écrit. Et ça lui facilitera la vie pour la communication professionnelle, par mail, pour la communication interpersonnelle, peut-être des messages avec son futur conjoint, sa future amoureuse, et se dire, plus je m'exprime tôt, plus j'arrive à oser prendre la parole et prendre ma place en fait dans le monde, plus je pourrai communiquer et tisser des liens de qualité avec les gens qui m'entourent, les collègues, les amis, les patrons, les enfants, et que c'est un cadeau en fait que vous faites à la fois aux élèves et aux enfants, de les laisser s'exprimer, de les guider pour qu'ils affinent leur langage et leur argumentation, du coup leur réflexion. Et c'est un cadeau qu'on fait aux jeunes enfants pour plus tard, quand ils seront citoyens, quand ils seront adultes. Vous savez que j'ai cette vision complètement idéaliste qu'on peut, génération après génération, améliorer la douceur de l'enfance et vraiment porter à la fois les jeunes enfants et les adultes vers un monde plus zen, plus à l'écoute et plus bienveillant, même si je n'aime pas forcément ce mot qui a été traité à toutes les sauces dans l'éducation nationale. Donc voilà, plein de pistes qui vraiment m'ont porté, moi, ces 5 dernières années, d'avoir amélioré le processus Tekkil au fil du temps pour que ce soit à la fois percutant sur la capacité des enfants à s'exprimer, sur la capacité des enfants à ressentir qu'ils étaient importants dans leur singularité, dans leur identité, et à la fois de montrer qu'un groupe se construit justement parce que les avis sont différents, parce que les avis sont modulables. On a la plasticité du cerveau qui peut à chaque instant nous dire finalement ce que je pensais il y a 2 ans, j'ai avancé sur cette question et je ne pense plus ça maintenant parce que j'ai confronté mon idée, j'ai osé l'exprimer et j'ai écouté les avis des autres. Et en ça, c'est bien sûr indissociable de se dire quand on ose parler de soi, quelque part c'est qu'on accepte d'entendre de temps en temps les autres parler. Voilà, je vous laisse sur ces considérations philosophiques. Très souvent, les Room Clubhouse, ça finit aussi comme ça. Je pars dans un élan idéaliste et humaniste à la fin de mon thème de départ. N'hésitez pas à me faire des petits retours sur les réseaux si cet épisode vous a inspiré ou si vous avez aussi constaté ça dans vos établissements ou dans vos classes. Je pense qu'on peut très bien arriver à installer ce dialogue de qualité avec chaque élève et chaque enfant, pour peu qu'on en ait l'envie et l'intention. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez plus de détails et de développement encore sur ce thème. On en reparlera dans l'épisode sur l'atelier philosophique. Et voilà, on va parler aussi de cette capacité à donner les clés aux jeunes enfants dans le cercle de parenté qui s'organise petit à petit. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.